11e Talk, le Curiosity Club Marseille a reçu avec beaucoup de plaisir les fondatrices de la marque de lingerie La Nouvelle, Alix de Moussac et Aurélie Grandemange. Merci au Now Coworks Place de nous avoir accueillis dans ces magnifiques locaux sur le Vieux-Port et merci à notre partenaire de toujours Lilé ainsi qu'aux Succulentes d'avoir régalé nos papilles. Belle écoute!
Merci à toutes d'être là. C'est un exercice un peu particulier pour nous, parce que c'est la première fois qu'on fait ça, donc on n'est pas forcément très à l'aise, mais on va le faire, allez. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir donné la parole ce soir et de nous avoir invités ici. On est très honorés parce que vous avez accueilli des femmes avec des parcours super. Donc, pourquoi pas, allez. Allons-y. Donc ce soir, nous, on va vous parler de choses très futiles, puisqu'on parle de lingerie, de culottes et de soutien-gorge, mais finalement cette futilité est quand même très essentielle aussi dans nos vies.
Là aussi du corps des femmes. Enfin,
et du coup voilà, ça fait appel à plein de sujets, à la féminité, voilà le corps des femmes, voilà. Et on a envie de présenter une féminité quand même très différente de celle qu'on nous a offert jusqu'à présent. On y viendra plus tard. On va vous présenter pourquoi on en est, pourquoi on est devenu des entrepreneurs, pourquoi on est devenu, on a ce parcours entrepreneurial. Donc moi personnellement c'est assez naturel finalement parce que j'ai baigné dans une famille d'entrepreneurs. Mon père était entrepreneur, il a accompagné beaucoup de jeunes structures, de TPE et de PME à se développer. Donc dans la région lyonnaise, il a d'abord travaillé à la CCI de Lyon, après il a travaillé dans du capital risque, et après il est devenu lui-même entrepreneur, il a créé sa propre structure pour accompagner les entrepreneurs. Donc j'ai toujours baigné là-dedans, j'ai accompagné, j'ai fait des stages avec lui, et puis au moment où je lui ai dit bah, « en fait j'ai envie de m'associer avec Alix et de faire une marque de lingerie », il m'a regardé avec des grands yeux, une marque de lingerie à Marseille. Donc pour un Lyonnais déjà, j'allais dans un endroit qui n'était pas complètement safe, mais en tout cas il a été d'une aide précieuse pour le développement de La Nouvelle. Donc je ne suis pas arrivée dans l'entrepreneuriat pour rien, et puis je suis issue aussi d'une famille où la valeur travail est hyper importante, on a toujours asséné, faut bosser, un chéri pour réussir. C'est vrai que mes parents ils venaient de milieux ouvriers et paysans, et c'est en bossant qu'ils ont profité de l'ascenseur social. Donc en fait, ils nous ont toujours dit à mes grands frères et à moi, bah, voilà, bosser, et puis c'est comme ça que vous réussirez, que vous profiterez de cet ascenseur social et de plein de belles choses, parce qu'effectivement... Voilà, et j'ai béni aussi ma mère, donc j'ai béni dans une famille qui était très paternaliste, etc. Mais ma mère a toujours bossé et elle m'a toujours dit « Aurélie, ménage-toi toujours une porte de sortie, c'est hyper important ». Donc bah, voilà, j'avais toujours ces choses-là en tête, j'ai deux filles maintenant, donc c'est aussi quelque chose que j'ai envie de leur inculquer. C'est vrai qu'être indépendante, bah, ça ouvre beaucoup de portes et de possibilités. Voilà, et pourquoi j'en suis venue aussi... à la mode et donc à cette futilité qu'est la lingerie, on va dire, c'est que bah, j'ai grandi dans une famille aussi où finalement le beau n'avait pas vraiment sa place, c'était pas très important. J'ai grandi dans une famille très cartésienne et moi je sais pas pourquoi ça, j'ai toujours eu cet attrait pour le beau, pour les beaux vêtements, etc. Je sais pas d'où ça me sort, en tout cas ça a toujours été en moi. Et ça a toujours été une frustration aussi d'être dans une famille où justement on s'en foutait un peu. Donc je pense que c'est pas pour rien que j'en suis arrivée là aussi. Voilà. Voilà pour ma petite histoire personnelle. Je te passe.
Bonsoir. C'est assez intimidant. Alors, moi, c'est Alix, l'associée d'Aurélie. Sur les valeurs, sur le côté valeur du travail, on se rejoint. Moi, c'est pas tout à fait la même histoire de famille. Moi, c'est plutôt une famille très artistique et très libre. Donc, j'aurais beaucoup de champs libres dans l'expression, dans ma grand-mère Peignet, ma grand-tante aussi, assez féministe aussi. Donc, on m'a toujours dit, te laisse jamais faire par un mec. Voilà, même c'était un peu déroutant quand j'étais jeune ado parce que c'était les premiers conseils qu'on me donnait. Donc, bon, bah, ok, donc je vais faire confiance à aucun mec en fait. Et avec deux grands frères qui me donnaient un bon exemple de mec aussi. Donc voilà. Bon, finalement, il y en a des biens quand même. donc voilà, ouais, moi c'était plutôt une famille assez esthète avec où on faisait de la photo, du dessin en permanence et c'était vraiment le premier mode d'expression. Donc moi j'ai toujours dessiné, j'ai toujours voulu être styliste depuis que je suis toute petite. Et mes parents n'ont jamais mis de frein à cette vocation que j'avais. Ils m'ont jamais dit « ça ne sera pas possible, c'est pas un métier ou tu ne vas jamais y arriver ». Au contraire, ils ne m'ont pas poussé non plus parce qu'ils ne sont pas très pousseurs. Ils m'ont juste laissé champ libre pour y aller et y croire, mais en faisant mes preuves, enfin, en laissant faire mes preuves. Du coup, je suis allée là où j'avais envie d'aller. Et entrepreneuriat, j'ai fait une école de stylisme pendant 4 ans et j'ai bossé que 2 ans en salarié et c'était pas du tout mon truc. Donc j'ai fait très naturellement ma première marque de lingerie qui s'appelait Alex et mon sac avant de rencontrer Aurélie. J'avais envie d'exprimer ce que j'avais vraiment envie d'exprimer, quelque chose de plus personnel. Donc j'ai monté ma première boîte à 25 ans, du coup, sous mon nom propre, et après...
Le style déjà.
Oui, du coup, en fait, j'avais envie de... Donc j'ai une mère qui est assez très 70s, donc elle avait très peu de soutif, quand même. C'était vraiment du nos bras, hein. Voilà. Ou alors, en tout cas, le confort avant tout. Donc moi, j'ai vraiment été éduquée là-dedans, dans la liberté du corps. Et c'est vrai que je ne me retrouvais pas du tout dans les marques de lingerie. Je trouvais qu'on avait l'air déguisé, saucissonné. Enfin, ce n'est pas du tout ce que j'avais envie de porter. Et du coup, j'ai créé mes premiers modèles pour trouver une lingerie qui soit confortable et en même temps assez féminine. Parce que mes parents ne sont pas du tout consommation mode non plus. Même anti-consommation, mais du coup, il manquait le côté un peu mode et féminin que moi j'aime bien et que j'avais envie d'exprimer. Donc, j'ai fait les premiers modèles comme ça. J'ai commencé à en vendre aux copines qui m'ont dit ah, bah attends, c'est chouette ce que tu as fait, donc on aimerait bien t'en commander. Et du coup, c'est venu comme ça petit à petit. Aurélie a été une de mes premières clientes.
J'adorais le style d'Alix. En fait, on s'est rencontrés via nos ex et compagnons respectifs. Et c'est vrai qu'elle faisait ses ventes à Paris. Moi, j'habitais Paris à l'époque. Et j'ai essayé tout de suite. Je me suis dit, c'est génial d'avoir un truc, qui soit super confort, un style très vintage, très, très mignon. Et donc voilà, c'est comme ça que l'histoire a un peu commencé entre nous. En fait, moi, j'étais aussi à Paris à l'époque. Je bossais dans un grand cabinet de conseil en stratégie. Donc, je baignais déjà dans le milieu de la mode parce que j'avais des clients. Je bossais chez Chanel, je bossais chez Chloé, je bossais chez La Redoute, etc. Et j'étais en même temps assez frustrée par mon métier qui m'a beaucoup appris, parce que j'ai bossé sur plein de problématiques différentes qui me sont d'ailleurs aujourd'hui super utiles dans mon métier, puisqu'on est multicasquette hein, quand on est entrepreneur. Mais j'ai beaucoup appris, mais j'étais très frustrée parce que j'avais un management très, très poussif, très dans la réussite, dans le challenge, etc. Je faisais des heures pas possibles. Donc j'étais pas forcément très très bien dans cette vie-là. Et avec mon compagnon, on n'avait pas du tout envie de rester à Paris. Lui, il vient du Sud. La lumière du Sud lui manquait. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on se casserait pas de Paris finalement et on va pas s'installer à Marseille. Donc c'est ce qu'on a fait. On venait à Marseille justement parce qu'on avait des amis ici. On ne voulait pas s'installer from scratch avec personne qu'on connaissait. Donc on avait notamment Alix qui était là. Et puis voilà, donc on a quitté Paris, on a fait un petit détour par Oulan-Bator, parce qu'on est parti pendant 7 mois faire un grand séjour dans un van à travers l'Asie centrale. Et puis on est venu poser nos petits bagages à Marseille. Et avant, en fait, pendant ce voyage justement, on s'est retrouvés, Alix est venue nous retrouver à la fin de notre voyage quand on était en Turquie. On s'est retrouvés à Istanbul et on a fait une petite traversée au Bosphore. Et elle m'a demandé en mariage.
Non, du coup, moi, je l'ai rejoint. J'étais enceinte de mon deuxième enfant, donc j'étais enceinte de 7 mois. Et on ne vous l'avait pas encore dit. Donc, je suis arrivée avec un énorme vide pour la visite d'Istanbul. C'était merveilleux. On marche quand même pas mal. Mais bon, c'était le dernier voyage avant la naissance. Donc, on voulait en profiter. Et du coup, je connaissais Aurélie, je savais qu'elle avait l'intention de s'installer dans le Sud. Du coup, j'avais déjà eu une fille avant. Là, j'attendais mon deuxième enfant. Et du coup, j'avais ma boîte de lingerie. En même temps, je n'arrivais pas à me faire un salaire suffisant. Donc, je bossais beaucoup en freelance pour d'autres clients. Donc, c'était un peu schizophrénique parce que du coup, tu fais des jogging, je faisais de la lingerie hyper sexy pour un autre client. Enfin, je bossais dans tous les domaines. Ce qui est sympa comme exercice aussi, mais j'avais envie de me focaliser juste sur une tâche pour réussir. Et c'est vrai qu'avec deux enfants en bas âge et tout le boulot qu'il y a autour, je me disais toute seule, je vais jamais réussir. Soit j'arrête, soit faut que j'ai de l'aide. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas fait d'école de commerce. Je gérais tout de manière assez spontanée, mais pas sans formation. Et du coup, je connaissais le parcours d'Orly que j'aimais beaucoup déjà et toujours. Pour les fichiers Excel, tout ça. Non, voilà. Mais du coup, on avait vraiment des parcours et des formations ultra complémentaires. Et je lui ai demandé si ça ne la tentait pas qu'on se lance dans l'aventure, enfin qu'on continue du coup la lingerie ensemble et qu'on s'associe pour créer la nouvelle. Donc à la base, il n'y avait pas encore. Il n'y avait pas encore le nom. Moi, j'aimais pas du tout bosser sous mon nom propre. C'était hyper angoissant, en fait, de ne pas être dissociée de son boulot. Enfin, déjà, en tant qu'entrepreneur, tu vis avec ton boulot. Bah, après, ça se fait de manière très naturelle, surtout quand c'est une passion. Mais c'est vrai qu'il y a zéro frontière. Et puis, je bossais aussi beaucoup avec mon ex-mari qui m'a beaucoup aidée pour l'image de la marque, pour créer l'univers et tout. Mais du coup, j'étais dans ma bulle en permanence. Et du coup, de dissocier ça, c'était bien. Et j'étais contente de pouvoir le partager avec... j'avais envie de partager l'aventure avec d'autres personnes. Et donc, Aurélie m'a dit oui.
Voilà. Tout ça pour ça. Du coup, on est rentré d'Istanbul, on s'est posé à Marseille. Moi, j'ai fait un bébé aussi en 2013. Et du coup, 2013, c'était un peu l'année du bébé, la naissance de son fils, la naissance de ma fille.
Ils ont bien connu la naissance de notre entreprise aussi.
Ouais, c'est ça. Et on a fait notre business plan. On a décidé du nouveau nom. On partait à Alix de Moussac et on a cherché un nom qui soit doux, qui soit facile à prononcer dans toutes les langues parce qu'on avait des rêves internationaux. On rêvait de s'exporter au Japon. Je sais pas pourquoi, mais
c'est parce que j'avais déjà un client au Japon depuis on n'a jamais repercé au Japon.
Donc c'est pas grave. On a pas mal brainstormé et puis il y a aussi beaucoup de noms qui sont pris en fait. Hein, donc déjà ça réduit le champ des possibles. Et puis finalement on cherchait, on avait la nouvelle qui nous est venue assez naturellement. Puis on était là la nouvelle quoi. Puis tout d'un coup on s'est dit en fait on va s'arrêter là. La nouvelle c'est très bien. Et donc on a créé la nouvelle qui a vu le jour en février 2014. Dans la continuité évidemment stylistique et puis même commerciale finalement de ce que tu avais déjà créé et semé avec Alix de Moussac. Et on a développé ça, donc au début on était toutes les deux dans une petite maison de poupées rue Saint-Jacques à Marseille. Et puis on a bien sorti les rames hein, quand même au début, on va pas se mentir. C'était vraiment l'artisanat, on faisait des micro-séries, on allait acheter notre tissu. Sentier marseillais.
J'ai découpé les t-shirts de mon mec pour faire les fonds de culotte avec le jersey.
C'était très artisanal. Ouais, c'était très très artisanal. Après, finalement, tout ça, ça a grandi parce qu'on a fait des rencontres déjà. On a commencé à recruter des gens dans notre équipe qui sont venus vraiment nous apporter un grand grand soutien. Donc, on a eu d'abord une première personne, Lola, qui est arrivée sur la partie modélisme et mise au point des produits. Après, il y a Valérie qui est là. Qu'est-ce qu'elle a son téléphone qui nous a aidé sur toute la communication, les réseaux sociaux, les shootings, etc. Et puis petit à petit, il y a de plus en plus de monde. Natacha, Ophélie, Stéphanie, Laura qui est arrivée dernièrement. Enfin, et donc maintenant, on est 13. C'est une chouette équipe et on n'est que des femmes. Alors, ça s'est fait un peu au hasard, ça, pour le coup.
Oui, aussi parce qu'on passe essentiellement nos journées quand même en culotte, parce qu'on essaye tous nos produits. Donc, c'est vrai qu'on est quand même très, très souvent dans des situations un peu cocasses.
Ouais, dans des situations cocasses. Donc, c'est vrai qu'un mec, je ne sais pas s'il serait très, très heureux.
Ouh, très heureux.
Il serait un peu trop heureux. Enfin, je sais pas. Non, en plus, c'est vrai que là, on a déménagé dans le bureau, mais avant, on avait juste un open space.
Ouais, voilà. On peut pas trop se planter. T'as le livreur DHL qui arrive et t'es en train d'essayer un body et tu te caches derrière un carton. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de moments de solitude. Hein, mais...
T'improvises. Et donc, voilà, donc tout ça pour dire que la nouvelle a été créée. Ouais. Et puis, petit à petit, donc, ça a pas mal grossi. Alors, du coup, on a jamais percé au Japon. Hein. Via des rencontres avec des agents et des salons, on a pas mal progressé en France. En fait, on s'est d'abord développé en B2B, donc en fait en vendant à des boutiques qui revendent la marque. Beaucoup
beaucoup sur la France, c'est vraiment notre premier marché. Et merci les filles d'être là. Et puis voilà, maintenant on se développe un peu plus sur Internet. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire que la vie d'entrepreneur, c'est vraiment pas un long fleuve tranquille. Qu'on se met, on a des idées en tête, on se dit bon, on va faire ça. On se fait des petites to-do le matin, et puis en fait, le soir, on se rend compte qu'on a fait tout autre chose dans notre journée parce qu'il nous est arrivé mille trucs entre temps et que ce qu'on pensait faire, ben, on l'a pas du tout fait. Quoi.
Oui, et puis derrière, enfin, du coup, il y a toutes les pièces qu'on fait, il y a une énorme partie qui est la production, et ça, c'est vraiment un gros morceau. Et du coup, tu sais jamais si tes pièces vont arriver, comment elles vont arriver, donc on a parfois des grosses, grosses surprises. Enfin voilà, ça c'est une gestion au quotidien, mais effectivement, tu te lèves le matin, tu te dis je vais faire ça, ça et ça, et puis en fait tu t'es happé dans 50 000 sujets divers, et tu fais tout sauf ce que tu avais prévu, donc tu le reportes sur la to-do du lendemain, et puis c'est vrai qu'on est, enfin voilà, c'est le rythme qui...
Mais des collections, hein, c'est un
oui, qui fait arriver. Des collections qui reprend tous les 6 mois, donc tu t'ennuies jamais, c'est tout le temps en mouvement, et du coup ça change, même si c'est toujours de la culotte et du skin-gorge, en fait il n'y a pas une saison qui se ressemble.
Oui, chaque saison est particulière, et puis bon, bah, dans le métier d'entrepreneur, en fait, oui, il y a tellement d'impondérables qu'on ne peut pas tout maîtriser, et c'est vrai qu'on est vraiment toujours en réaction par rapport aux événements. Enfin, on a connu ces dernières années tous, d'un coup il y a une pandémie mondiale, ah putain, qu'est-ce que c'est que ça, enfin, ah bon, on peut plus aller, on peut plus emmener nos gosses à l'école, on est enfermés chez nous, comment on gère ça,
ça a été des infos, enfin, là, bon, alors, donc là plus personne peut venir bosser, il faut qu'on aille mettre du scotch avec un sens d'entrée dans le bureau, plus personne peut venir, enfin bon, c'était un peu rock'n'roll ces dernières années, et en même temps c'était hyper touchant de voir la solidarité que ça a créé aussi, parce qu'on a eu des messages d'accompagnement hyper touchants, hyper motivants pour continuer, et ça c'était...
Ouais, que ce soit de la part de notre équipe, hein, ouais, hyper résiliente, ça c'est clair.
Une équipe en lutte de folie.
Et puis aussi, les clients.
Des boutiques, enfin ça nous a vachement porté.
Ouais, carrément.
Et aider à traverser ça, enfin du coup on s'en est plutôt bien sortis aussi. Alors qu'on ne pensait pas. Je pense qu'en mars 2020, on était à bon, alors peut-être qu'on ferme dans 2 mois, je ne sais pas.
Ouais, on était tous un peu sûrs. Ouais. Mais voilà.
Et concrètement, en fait, c'est le début de la marque La Nouvelle. Parce que là, on a la réussite de La Nouvelle.
Les débuts, c'est. Du coup, on coupait des petites culottes dans une cave, on faisait les salons, on a fait des salons tous les deux avec 42 fièvres et la grippe, toutes les deux, mais bon, on ne bougeait pas du stand, donc
le stand était payé, on avait mis toutes nos économies dedans, voilà. Donc on n'avait pas intérêt à
coûter. C'est aussi pas de salaire pendant pas mal de temps, donc c'est un peu galère.
Oui,
il faut y croire également,
parce que
si tu ne vas pas, voilà, tu payes la nounou.
On a fait 2 années où on a vraiment sorti les rames. Au bout de la fin du 2e exercice, on était, la trésor était à 0, quoi, grosso modo. J'avais le banquier à peu près tous les jours qui m'appelait, Madame Grandmange, comment ça se passe? Donc, non, mais vous en faites pas, ça arrive, vous en faites pas. Puis bon, tu rappelles un peu tout le monde, tu fais les fonds de tiroir, machin. Finalement, il y a quand même une banque qui nous a suivi, qui nous a fait un petit prêt, parce qu'à ce moment-là, je sais pas quoi, BPI avait de l'argent, donc il fallait qu'ils donnent un peu. On a bénéficié d'un prêt de 50 000 euros du Crédit Lyonnais. Et franchement, merci, parce que sinon, on ne serait plus bien aujourd'hui.
C'est clair.
Et puis, on a trouvé aussi une super agent à ce moment-là.
Oui,
qui s'est vraiment démenée pour la marque. Et qui allait taper à toutes les portes. Je pense qu'elle vend, ce qu'on se disait tout à l'heure, hein, je pense qu'elle vendrait un frigo à
un pingouin. Elle est.
donc en fait, t'as pas besoin de lingerie, t'en as.
Et t'en as fois 3.
Du coup, le petit prêt LCL et Bribri, ça nous a bien aidé quand même. Et du coup, l'histoire s'est faite à partir de là. Quoi. Au bout de 3 ans, enfin. L'eau et
trouver des partenaires aussi pour la production, justement des façonniers qui te suivent, alors que tu as des quantités vraiment merveilleuses et que ça va rien leur amener, c'est juste qu'ils ont envie d'aider la jeune création et d'y croire, parce qu'on a commencé, on avait toqué à la porte des ateliers qui avaient repris les ateliers du Jabi à l'époque.
Ouais, à Lyon, pour faire une production.
Pour faire une production Made in France, sauf qu'elles nous ont rappelé genre une semaine avant la livraison pour dire bah, en fait, on vous gère pas, on va pas vous faire votre production. Et nous, on avait un salon.
Bah, elle mettait la clé sous la porte.
Oui, voilà. Et du coup, nous aussi, a priori. Et c'est vrai qu'on a trouvé un partenaire à qui on travaille toujours depuis au Maroc et à qui on a donné.
Bah, au début, on lui a donné 1000 pièces.
Oui, 1000 pièces. Pour lui, c'était vraiment une collection d'une autre marque parce qu'il bosse pour Etam, pour plein de gros. Et il nous a vraiment pris sous son aile à ce moment-là. Donc lui, il nous a vraiment sauvé la mise et l'entreprise. Quoi, quand même. Ouais. Et on bosse toujours avec lui aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvé aussi à fabriquer au Maghreb. Voilà, à Casablanca, où on va plusieurs fois.
Ouais, plusieurs fois par an. On travaille à Casa et en Tunisie également pour les productions. Et oui, il nous a sauvé la mise d'ailleurs deux fois parce que, enfin, en fait, ce qu'on disait, hein, c'est vrai que c'est les montagnes russes. Moi, je me souviens, j'étais enceinte de ma deuxième fille, mais j'étais enceinte jusqu'aux dents en plein mois de juillet. On est de recevoir notre production automne-hiver, donc du Maroc. On a reçu plusieurs cartons de notre prod. Et en fait, le logisticien m'appelle en disant bah, en fait, on a un petit souci, on a un camion qui s'est fait braquer à Marignane. Bah, il se trouve qu'on vous a volé des colis. Voilà.
Okay. Donc 500 strings qui étaient appelés.
Je ne sais plus, en fait, on avait la moitié de la pâte qui a été livrée.
Qui était vendue au marché de la
moitié qui était pas livrée. Sauf que, manque de bol, il y avait la moitié qui était libérée, c'était que les hauts, donc des brassières, des soutiens-gorge, et puis tous les bas, bah, ils étaient sur le marché de la plaine. Donc on était là, bah, c'est cool, mais on ne va pas pouvoir livrer nos clients avec que les hauts, en fait. Et justement, bah, ce partenaire-là nous a dit, bah, les filles, il me reste du tissu, je vais vous faire les bas, et il nous a renvoyé trois semaines plus tard. Donc, on revient de loin. Quoi.
Ouais.
Mais chaque année, on a notre petit lot de surprises. Enfin, après, donc, ça a été la pandémie. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a les serveurs OVH qui ont brûlé en Alsace. Et bien, on avait toute notre GESCO sur le serveur. Et la seule base de données qui a été brûlée et qui n'a jamais revu le jour, parce qu'elle n'a pas été bien sauvegardée, c'était Libye. Et donc voilà, là, on a passé un bon moment parce que c'était le moment où on venait de recevoir 60 000 pièces, parce que là, du coup, on a des producteurs un peu plus importants, qu'il fallait livrer. Il y avait le bon marché qui nous appelait en disant bah alors les filles, à vous livrer quand? Parce que sinon, on va annuler notre commande. Alors deux minutes, parce qu'on ne sait pas ce que tu as commandé en fait, on sait plus ce que tu as commandé, on ne sait pas ce qu'on doit te livrer.
Donc c'est des petits inventaires dans des entrepôts à Martigues.
Ouais, c'est ça. Voilà. On est peu de choses dans ces moments-là.
Non, mais en gros.
Ouais, non, mais après, c'est bien l'entrepreneuriat.
Non, mais après, c'est vrai que bah, du coup, on a créé plusieurs pôles, enfin, du coup, de tous les deux. C'est vrai que l'entreprise a pris forme, on arrive à définir des pôles, enfin, on s'est structuré. Nous, on a appris aussi le management, enfin, en tout cas, la manière dont on a envie de le faire, donc c'est très naturel et spontané. voilà. Mais du coup, il y a un pôle administration des ventes, un pôle production, un pôle communication, un pôle style. Enfin, voilà, du coup, ça prend forme. Et c'est un peu plus structuré qu'avant, même si ça reste assez freestyle et où la communication entre nous est très normale. Ouais, voilà. On reste quand même une toute petite boîte que je considère assez familiale. Quoi,
ouais.
Voilà. On vit toutes...
Oui, c'est familial. On veut que ça reste.
Que
ce soit fluide et simple.
Bah moi, je trouve ça assez. Je trouve ça hyper flatteur en fait. Non, mais parce que c'est. Bon, c'est hyper flatteur, parfois c'est très énervant, mais. après, je continue dans le style.
Toi, tu restes fidèle à toi, voilà. De toute façon.
Et puis, chaque saison, j'ai envie de raconter des nouvelles histoires et de. Voilà, ça n'empêche pas. Et puis, bah, être copié, je crois que c'est inévitable en fait. Et puis, on est quand même dans le monde du textile et de la mode. Qui n'est pas le milieu le plus sympa du monde, hein, quand même. c'est pas forcément.
Ouais, et après, par rapport à ta question sur le fait d'être les premières à faire du sans armature,
Alors oui, c'est vrai, parce que toi, c'était paru évident, mais je trouve que les mentalités ont aussi beaucoup évolué ces dernières années, et on ne parle plus de la femme comme on en parlait il y a 5 ans. La femme objet, finalement, elle n'existe plus, et c'est tant mieux. Et donc, finalement, cette espèce, enfin, elle n'existe plus. Ouais. Moi, je la vois plus.
Non, mais si, c'est donc que tu as soit de la Kim Kardashian, soit une extra-féminité, ou...
Mais du coup, se situer à mi-chemin entre les deux, juste en parlant de confort, tout en étant mignon, joli, avec une petite bretelle qui dépasse et qui est jolie, bah voilà, je trouve que ça va dans le sens de l'histoire, en fait, tout simplement. Bon, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être armaturé? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se faire mal? À quoi ça sert, quoi, finalement? Alors, voilà, c'est juste, tu mets un truc sans armature, t'es confortable, c'est mignon, ça reste sexy si t'as envie d'être sexy, tu le montres si t'as envie de le montrer, tu ne le montres pas si t'as pas envie de le montrer. En tout cas, on défend cette féminité.
Oui, oui. C'est vrai que ma personne de la féminité, je pense que t'es bien dans ta peau et t'es sexy quand t'es bien dans ta peau et que t'as pas besoin de. Enfin, c'est le naturel et d'être. La confiance en soi qui donne l'assurance et. Ouais, je trouve c'est important d'accompagner les femmes comme ça.
Et justement, à votre avis, qu'est-ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui?
On travaille beaucoup quand même. Non, mais c'est vrai.
Il y a le style. Et puis c'est vrai, franchement, l'essayer, la petite brassière de la nouvelle, c'est... L'adopter, quoi. En tout cas, moi j'ai été convertie.
C'est plus produit, alors, à vous
oui, après, ouais. Non, mais bien sûr, après, on raconte des belles histoires autour de ça. On fait des beaux shootings. Je trouve qu'on a un feed Instagram qui est beau. Enfin, il est quand même. J'espère qu'on arrive à embarquer aussi les gens dans cette histoire-là et dans cet esthétisme. Qui pourrait faire que c'est ça qui plaît, mais bon, je sais pas, t'as d'autres explications?
Après moi je suis contente quand les gens reconnaissent l'image de la marque, enfin voilà, qu'ils sentent que...
Et je suis contente aussi quand les femmes se voient, elles se jaugent à la bretelle, ah toi aussi, et ça fait une petite, on essaie de créer le hashtag la bande de la nouvelle, mais voilà, c'est ça, on fédère aussi les femmes entre elles avec cette petite marque là, quoi.
Et puis après de voir le nombre de femmes que ça touche, en fait, parce que c'est hyper intergénérationnel, et ça justement, on n'a pas de boutique en nom propre, mais on organise des braderies, je sais si vous êtes, où on rencontre plus... nos clientes, et c'est vrai qu'on a des femmes qui achètent pour leurs filles, qui ont, alors il y a des femmes de 60 ans, en fait c'est hyper intergénérationnel, et ça c'est génial, parce que du coup dans la transmission du confort, de la féminité, je trouve ça hyper chouette.
Donc il y a le produit, mais je vous emmène surtout dans l'idée du duo, et de la façon de travailler ensemble,
la complémentarité,
comment en fait vous fonctionnez à deux?
En fait on fonctionne un peu comme un couple quand même.
Non mais c'est assez naturel en fait.
On se parle beaucoup, enfin plus tôt.
Oui,
quoi,
oui, en fait. Et puis c'est assez naturel. Après on a des caractères, on a des valeurs qui sont très communes, on a des caractères aussi différents mais quand même assez proches, du coup on va beaucoup plus parler, on va s'entendre, on n'est pas on n'est pas belliqueuse du tout. Et puis après, on a vraiment notre domaine d'expertise à chacune, donc c'est ça qui fait qu'on ne va pas se marcher sur les plates-bonnes de l'autre et qu'on ne va pas être dans la compétition, en fait, ça ne sert à rien. Alix, c'est vraiment le style, elle impulse l'image, le style, etc. Et puis moi, je vais être vraiment dans la partie back-office.
Ouais, et puis après, dans le guidage de la société, ça, on se parle... Quand on prend le temps,
on les prend en commun.
Là où on a envie d'aller, comment on a envie de gérer la boîte, nos valeurs, enfin voilà.
Et quand on est ensemble comme ça tout le temps dans le travail, ça empiète comment dans la vie privée?
On continue à se voir en dehors.
Non, mais après, on a des enfants qui sont amis aussi.
Oui, voilà.
Puis ils sont à la même école. Oui. Donc, oui, on se voit.
Donc, on ne se voit pas forcément pendant le mois d'août. Ça, c'est.
C'est la.
Ouais.
C'est la pause annuelle.
Voilà.
Mais. Non, mais sinon, on communique en fait
de manière naturelle tout le temps. Et voilà. Et après, on essaye. On avait fait un accompagnement qui était, il y a 2 ans, qui nous avait bien aidé à justement, quand on a la tête dans le guidon en permanence, à sortir. C'était quoi le projet de base? Et est-ce qu'on en a sorti, et voilà, de prendre un peu du recul et de voir là où on a envie d'aller, ça c'est des moments qui sont hyper importants aussi, parce que c'est vrai que en fait toute la journée à 100 à l'heure, et puis tu prends pas le temps d'apprécier justement ce qui est fait et là où tu peux aller. Donc ça c'est des moments de pause qu'on s'accorde pas énormément.
Ouais, ça fait un moment qu'on s'en est pas accordé, mais c'est vrai que
qui sont hyper importants. Et qui sont toujours, même si c'est une après-midi ou un petit moment, c'est toujours hyper porteur pour avancer dans les nouveaux projets ou faire un petit point.
Juste mettre un peu la trajectoire.
Ouais, faire une petite pause sur le temps qui file.
Quel conseil vous donneriez? Donc, il y a des entrepreneuses.
Moi, je dirais qu'il faut toujours croire en ce qu'on fait et qu'il n'y a pas de limite, en fait. Non, mais moi, je fais un métier qui n'est pas forcément styliste. Il n'y a pas beaucoup de débouchés. Il n'y a pas beaucoup de postes à pouvoir. Mais même mes débuts, si j'ai... Il faut croire en ce qu'on fait et se dire que tout est possible. Moi, je trouve que il faut se sentir libre d'aller là où on a envie d'aller.
Alors moi je dirais que être entrepreneur c'est vraiment être sur des montagnes russes en permanence, donc il y a plein de surprises, des bonnes et des mauvaises, mais en tout cas à chaque problème il y a toujours une solution. Enfin, à chaque fois qu'on a été confronté à un problème, on s'en est sorti, et voilà, il faut être créatif, il faut être résilient, pugnace, mais il y a toujours une solution en fait. Et puis c'est pas grave, finalement c'est futile tout ça.
Voilà. Donc, pas des transplantations cardiaques non plus, quoi. Donc, ça va.
On va laisser la parole aux questions. Vous avez des questions à poser?
Sinon, on va au bar direct. Moi j'ai fait un bac LR plastique et après j'ai fait une école de stylisme pendant 4 ans. J'aurais adoré, mes parents voulaient quand même que je fasse un bac général, mais j'aurais bien bifurqué avant, ça m'aurait beaucoup plu. Bon, c'était très bien déjà d'avoir quelques heures d'art plastique, mais
alors moi je suis j'ai pas fait pareil. Moi, j'ai fait un bac S, après j'ai fait une prépa HEC et j'ai fait une sup de co à Toulouse avec un double diplôme à Berlin.
Et après, moi j'ai repris aussi à la fin. Enfin, après, j'ai bossé 2 ans et après j'avais repris en infographie parce que quand j'ai fait mes études, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc j'ai refait une formation derrière pour me remettre
à la page.
Voilà, et apprendre à me servir d'un ordinateur. Ce qui paraît complètement hallucinant maintenant.
Les gens se sont mis à l'aise dans leurs vêtements. Est-ce que vous avez vu un impact de cette période?
Oui, on a vendu pas mal de lingerie et de homeware. Et puis aussi, je pense que les gens avaient envie de consommer dans des petites entreprises, en tout cas français, local. Ce qu'on disait tout à l'heure, on a eu vachement de messages d'encouragement qui faisait chaud au cœur. Et du coup, on a vendu plus de lingerie. Après, pour le maillot de bain, de toute façon, les confinements s'arrêtaient avant l'été. Donc
non, mais attends, si, on en a vendu pas mal, le maillot de bain. Parce qu'il était super beau.
Donc, on allait faire les petites... on allait faire notre commande.
On venait de changer de site internet. On s'était quand même modernisé. Genre, un mois avant, en février, on a mis en ligne notre nouveau site internet qui était beaucoup plus moderne. Et puis d'un coup, les boutiques ferment, tout le monde ferme. Et donc là, on s'est dit avec Valérie, mince, comment on va faire? Donc on a communiqué davantage, on a fait de la pub sur Facebook, etc. Et on a explosé, nos ventes ont explosé pendant le confinement sur l'e-shop. Les clientes qu'on a gagnées à ce moment-là sont devenues fidèles, donc on ne les a pas reperdues après. Bon, nos boutiques faisaient la gueule, clairement, ça a été un peu compliqué pendant tout le confinement. Mais dès qu'elles ont rouvert, les gens ont eu envie de consommer. Il y a eu un énorme engouement dans les boutiques. Donc finalement, elle qui pensait faire un été tout pourri, elle me dit « je vais vous renvoyer la marchandise ». Finalement, ben, elles ont très très bien vendu. Et puis oui, je pense qu'il y avait cet engouement-là pour des jeunes marques françaises, pour le confort. Et voilà, on était parfaitement dans la cible, quoi. Donc oui, ça a été plutôt positif pour nous.
On est en plein dedans.
On est en plein dedans, donc d'ouvrir une boutique à Marseille. Première boutique à Marseille.
J'avais une autre question à vous poser, parce que bon, voilà, vous êtes en place depuis 2014. Vous êtes toutes les deux
oui.
Associées.
Oui.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de projet de levée de fonds, d'ouverture du capital des investisseurs?
Pas encore. Non, on n'est pas fermé, mais c'est vrai que jusqu'à présent, on a réussi à s'autofinancer, donc c'est fait un peu
bien. Ça n'a pas été non plus une volonté de votre part?
Pas pour l'instant, non. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant.
En fait, on a un peu peur de la vitesse et de grandir trop aussi. Mm-hmm, donc, on aime bien.
On a envie de maîtriser tout ça.
Autant
qu'on
peut. C'est votre bébé, encore.
Oui,
On aime bien cette échelle humaine qu'il y a dans notre société, donc on a envie de conserver quand même ça.
Même dans le démarrage, je crois que vous avez toujours voulu garder la main, vous n'avez pas fait un prêt important.
De toute façon, on a fait ce qu'on pouvait, les banques, au début, voyant nos résultats, c'est que bon, on va vous prêter un petit peu, mais pas beaucoup, hein, franchement.
Tu me racontais que tu faisais vraiment les culottes à la main. J'étais assez sidérée.
C'est vrai que mes premières culottes, je passais des nuits entières à cramer les bouts de cordon, à faire la teinture dans ma machine à laver avec la teinture Dylon. Non, c'était très artistique.
Oui, c'est parti de façon très agressive, artisanale.
Oui, c'est vrai qu'on a toujours maîtrisé la croissance en fait. Je sais pas, c'est vrai que ça fait partie de notre ADN, ça. C'est assez.
C'est ce qu'on n'a pas prévu dans la journée et qu'on va devoir prévoir.
La prod, c'est toujours un sujet parce qu'il y a plein de surprises. Quand on ouvre les cartons, on est là, bon, ok. Alors, est-ce que vous avez vraiment lu le dossier technique qu'on vous avait donné? Donc là, on s'arrache un peu les cheveux, c'est vraiment la vérité, si je mens par moment. T'as pas dit zip. Il y a ça, oui, le stock, enfin, moi quand je passe mes commandes de production, je sors la boule de cristal. Quoi. Je suis là, bon, alors combien j'en fais quoi? Et je me plante à chaque fois.
Non, t'es bonne quand même. Ça. Mais bon, parfois on a des petits loupés, mais tout ça c'est normal. Mais non, on essaye de pas trop surstocker, donc on limite quand même beaucoup la production. Pour pas se retrouver avec. On essaye d'avoir le moins de stock possible. Et déjà, on en a beaucoup. Et même pour les achats tissus, c'est pareil. Et en plus, quand tu te retrouves avec des rouleaux qui traînent et dont tu vas plus te servir, c'est.
Ouais, c'est frustrant.
C'est hyper frustrant. C'est du gâchis. Enfin voilà, c'est. Donc on essaye de limiter au max la perte. Et après, nos stocks, on fait des braderies, mais là, on a donné pas mal aussi à une association marseillaise qui aide les femmes en difficulté. Et je pense que ça, on va continuer, même à leur donner. Les tissus, qui s'appelle l'auberge marseillaise. On essaye de redistribuer après pour pas que ce soit perdu parce que c'est vraiment rageant de voir des choses.
Et là, via votre part, via les boutiques, via les revendeurs et via l'internet, c'est quoi?
Pour l'instant, on fait 80% de notre chiffre avec les boutiques et 20% seulement avec internet. Et ça, c'est vraiment voué à progresser. Hein.
Non, là, c'est plutôt on a deux papas qui sont
docteurs
conseils. Et le mien était. En tout cas. Pour les tailles, on va être de la taille 1 à la taille 5, donc on va jusqu'au 44. Après, comme on ne fait pas de la corsetterie, il y a une question de maintien qu'on n'arrive pas forcément à gérer. Donc, on n'a pas le savoir-faire et
c'est plus compliqué. On n'est pas sur de l'armature. Donc, voilà. Mais oui, taille 1, taille 5. Donc, ça fait 36 à 44. On concourt pas mal de morphologie. Après, c'est que des personnes qui ont des très très gros seins, on ne va pas pouvoir forcément satisfaire leurs besoins.
Et pour la compte.
On les a rencontrés sur des salons professionnels. Et puis après, on a démarché, on a appelé, on a visité beaucoup d'usines, on s'est déplacé, on a fait des essais plus ou moins fructueux. On a eu beaucoup de refus.
Ouais, notamment par rapport aux quantités qui étaient trop faibles au début.
Vous avez persuadé ?
Bah, alors, là, c'est assez bizarre, je ne sais pas. Je ne sais pas si on m'a fait de la peine ou quoi. Mais il s'est dit, tiens, c'est... Enfin, en fait, je pense qu'il a été assez surpris par le style et par le fait qu'on ne fasse pas d'armature. Lui, il a une usine vraiment de lingerie armature. Et je pense qu'il s'est dit, tiens, ça c'est intéressant, c'est un truc nouveau que je n'ai jamais vu. Bah, allez, j'y crois. Je vais les accompagner. J'ai la capacité de faire des plus petites séries dans mon usine, donc je vais le faire. Et puis, bah, petit à petit, finalement, c'est ce qu'on se dit, il était content d'avoir fait le pari, d'avoir parié sur nous, puisque chaque saison, on a continué à lui confier davantage de quantité. Donc ça, c'était l'histoire avec le façonnier marocain, le façonnier tunisien, on l'a trouvé...
En salon aussi.
Ouais, en salon aussi. Puis voilà. Salon de... Alors, en parallèle du salon de la lingerie, il y a un salon qui s'appelle Interfilière, où il y a des fournisseurs de tissus, d'élastiques.
C'est les salons du textile, en fait, qui sont... Il y en a plusieurs
en Europe. Il y a un salon du bain à Monaco.
Non,
à Cannes, pardon. Qui s'appelle Marie des Moulins aussi.
Il y a Première Vision, il y a à Munich et à Paris. Il y a pas mal de salons professionnels. Et du coup, là-bas, c'est des exposants qui vendent leurs tissus. Et il y a aussi pas mal de façonniers qui exposent aussi. Ma première prod, j'ai travaillé avec le Portugal.
Oui,
aussi.
Soyez,
ça m'a coûté, je ne sais plus, je pense 2000 euros pour 500 pièces. C'était énorme. J'avais vraiment brisé ma tête. J'avais beaucoup de stock.
La prod au Maroc, là, je ne sais plus du tout. On avait dû lui confier une mince.
Non, je ne sais pas du tout. Ouais.
Ça avait peut-être autour de 15 000 euros quand même.
15 000 euros, 500 pièces.
Non, il y avait plus de pièces quand même. Je ne sais plus combien il y en avait, mais il y en avait... ça coûte quand même cher,
oui, de toute façon. Ce qui coûte cher, c'est d'acheter les
tissus. Les tissus aussi qui viennent s'additionner à tout ça, les élastiques. En fait, on ne s'approvisionne qu'en Europe avec des tissus européens et des élastiques européens qui sont quand même assez qualitatifs. Hein. Le but, c'est que ça dure longtemps. Donc, la matière, elle coûte cher.
Ouais. En France, on a eu que des portes fermées et on passait pas du tout en prix aussi. Donc on a rencontré les fabricants des restes, mais bon, ça voudrait dire qu'on vend nos ensembles à 350 euros après en prix final pour la cliente. Donc on n'avait pas envie de ça non plus, ça correspond pas à notre produit, enfin c'est pas justifié. Et après c'est très compliqué. Moi, j'ai les deux années où j'ai bossé en salarié, je bossais dans une boîte dans le sud qui s'appelait Garella. J'étais vachement en contact avec tous les façonniers et c'était il y a très longtemps. C'était en 2003, je crois qu'il y a tous les façonniers ont fermé entre 2002 et 2005. Il y a eu c'était une catastrophe économique en France. Tous les façonniers ont fermé. Et même quand j'ai commencé avec Alice de Moussac à Marseille, il y avait encore pas mal de façonniers à Marseille qui ont tous fermé avant 2010. Il y en avait au moins 4-5 qui étaient derrière la Belle de Mai, qui étaient des beaux ateliers français super chouettes avec qui j'avais un peu bossé. Et ils ont tous mis la clé sous la porte parce qu'il n'y a plus de clients.
En France, il est vraiment 50% plus cher que si on fabrique au Maroc.
Oui.
50%.
Après, ça dépend de notre business model. Le truc, c'est que nos ensembles de lingerie, pour un prix public, ils sont autour de 100 euros. On n'a pas envie de les proposer plus cher. Je trouve qu'on a envie de proposer un produit qui soit pas donné, parce que forcément, on ne peut pas le donner, mais on a envie que ce soit quand même relativement accessible et au plus grand nombre.
Alors, on aurait pu se dire, se positionner comme RS, mais ce n'était pas notre souhait à la base. Et le truc aussi, c'est qu'on vend à des boutiques qui nous revendent. Donc, il faut que ces boutiques-là, elles puissent vivre, en fait. Donc, à partir du moment où on leur vend à elles, on leur vend, nous, 2,5 fois moins cher que le prix public, en fait. Donc, forcément, notre marge, elle est beaucoup plus réduite. Donc, c'est pour ça que ça ne passe pas avec une fabrication française et ça ne passe pas non plus avec une fabrication portugaise. Après, c'est sectorisé beaucoup. Et après, devenir.
Ah oui, non, notre agent marseillaise, elle bosse sur le sud-est.
Ouais. Mais là, après, on fait.
Une petite boîte marseillaise qui.
Non, mais ça n'a pas du tout été un frein, en fait.
Ouais, le bassin méditerranéen, il y avait beaucoup de grosses boîtes du prêt-à-porter qui viennent de Marseille. Ouais. Et au contraire, à Marseille, il y a un super rayonnement de ce point de vue-là.
Il y a le textile, par exemple, sur Marseille, des structures qui vous aident, qui vous accompagnent à vous développer.
Il y en existe, mais on n'a pas forcément tapé à la porte.
Non, après, on a quand même eu des formations avec
CCI. Et avec la Maison Méditerranéenne des métiers de la mode.
On a gagné en 2014 le Mediterranean Fashion Prize. Donc ça, c'était au tout début. Mais du coup, c'est vrai que ça nous a quand même permis de rencontrer des professionnels de la mode. À ce moment-là, c'était dirigé par Marine Digourou qui quand même nous a beaucoup,
soutenu
dans cette démarche-là.
Et elle-même, elle a beaucoup de connexions à Paris, en fait, parce qu'elle était au comité de direction, je ne sais pas comment ça se passe, de la MMM, il y avait quand même Chanel, il y avait Dior, donc elle avait des super connexions à Paris. Donc
on a eu des très bons conseils grâce à eux. Et après, nous, on fait des salons professionnels deux fois par an, enfin parfois plus, on a essayé d'autres. On fait le Who's Next, qui est le salon du prêt-à-porter
à Paris.
Là,
on est une marque communauté, finalement, on n'est pas forcément méditerranéenne.
Non. Après, ce qui était plus. Moi, j'avais commencé avec. Il m'avait invité avec la première marque, et c'est vrai que c'est un salon du prêt-à-porter, pas du tout lingerie. Donc, on était les premières à exposer de la lingerie et du maillot de bain au milieu des vêtements. Donc on était assez solo et en même temps du coup ça nous a permis d'avoir une jolie mise en avant parce qu'on
était les seuls et du coup c'est vrai que c'est à ce moment-là que les boutiques de prêt-à-porter se sont dit mais attends en fait je peux proposer un vestiaire complet, donc elles commençaient déjà à proposer des chaussures, elles commençaient toutes à proposer du bijou et se sont dit bah tiens pourquoi pas effectivement proposer de la lingerie, d'autant que c'est une lingerie qui est facile parce qu'il n'y a pas 150 000 tailles comme dans la corsetterie. Et qu'en plus, c'est une solution esthétique à des robes de nues, à des hauts très échancrés. C'est comme ça que ça s'est fait.
Ouais. C'est vrai qu'on les premiers dessous, je les ai vraiment imaginés comme des accessoires de mode. Je pensais que ma grand-mère hurlait quand elle voyait mes bretelles de soutien-gorge dépasser avec les régleurs, la tâche et tout. Je trouvais ça hyper vulgaire. Donc c'est vrai que ça permet de se mettre un débardeur et d'avoir une petite bretelle jolie qui se porte un peu comme un bijou et qui est un peu plus élégant que parfois une bretelle blanche qui est pas assez grise avec le lavage. Ça fait ça fait un petit bijou de peau qui devient un accessoire de mode. Et on avait vraiment cette volonté de s'implanter que dans les boutiques de prêt-à-porter et pas dans les boutiques de lingerie. Qui, pareil, ont eu, il n'en reste pas beaucoup.
Vous n'êtes pas au Japon, mais à l'international, en fait, c'est quoi
votre alors, on est pas mal en Europe. Sur l'Espagne, la Belgique, un petit peu l'Allemagne. Là où on est très représenté, c'est dans les Dom-Tom, avec un très gros marché pour nous, c'est la Réunion. Il y a une super belle boutique et visiblement les femmes, je pense, se dépensent pas mal dans le prêt-à-porter. Les Antilles aussi. Hong Kong, c'est un bon marché pour nous. Donc, on n'est pas très loin du Japon, mais on n'y est pas encore. Et à Dubaï. Dubaï, est-ce que tu veux
un peu les États-Unis. Italie patron, on a fait beaucoup de salons en Italie, mais on n'était pas à notre place. Non, je sais pas, ça prenait pas. Et puis on s'est fait la route Marseille-Milan avec notre petit stand. Parce que c'est sympa d'être à Milan pendant 4 jours, mais on n'a pas.
Il y a des boutiques qui nous ont acheté, mais elles sont pas forcément. Elles vont plus, elles vont zapper, elles vont pas forcément être fidèles, donc elles nous prennent une saison, puis l'année d'après, elles prennent une autre marque. Donc c'est vrai qu'on n'a pas réussi à fidéliser la clientèle. Alors.
On vend en Espagne, en Belgique, en Allemagne. Voilà. Après, c'est vrai que tout le marché anglais, Europe du Nord, on n'a pas encore.
On n'a pas trop essayé.
Non. Un peu, on a une boutique en Grèce, dans les Cyclades, c'est ce qu'on a. Voilà.
Et du coup, c'est quoi vos besoins actuels?
Ouh là là.
Moi, je dirais du temps.
Des journées de 30 heures, ce serait bien.
Non, mais du temps, parce que c'est vrai, quand tu termines ta journée, que tu n'as pas terminé ce que tu voulais faire, il y a toujours un petit côté frustrant de ne pas arriver à se poser 2 heures sur un même sujet. Moi, c'est ça qui me manque parfois d'être un peu plus dans ma bulle, surtout pour des moments de création ou de. Enfin, voilà, de pas.
Ouais, vous arrivez à vous dégager des moments à deux, stratégie,
des trucs. Ça, très peu.
Ouais, pas assez le coup. On y arrive, mais là, ces derniers temps, on n'a pas trop fait, quoi. Et c'est important pour sortir la tête du guidon, quand même.
Et comment on gère un entrepreneuriat, après le démarrage de la boîte, en étant jeune maman, en fait?
Bah, ils ont beaucoup été là.
Hein. Enfin, avec les gamins. Non, après, ça a été un super garde-fou parce qu'on aurait pu vraiment se plonger dans le boulot à 400%, faire des journées de travail interminables. Mais en fait, comme on n'avait pas de revenus, donc on n'avait pas vraiment de solution de garde, on n'avait pas de quoi payer nounou, bah, du coup, à la sortie de l'école, on les garde et puis la journée s'arrête là. Enfin, on reprend un peu à bosser le soir. Mais du coup, ça nous a aussi protégés de, quelque part, de faire des journées de travail interminables et du.
Non, et puis c'est vrai que le mercredi, on en profite, soit on le fait garder, mais quand même, on.
J'ai fait plus garder maintenant qu'elles sont plus grandes.
Oui, voilà, un peu plus grande, mais c'est vrai que petit, on.
Bon, on a profité, mais du coup, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément le choix. Ouais, mais ça a été un garde-feu, mais en même temps, finalement, c'était super parce qu'on a quand même développé nos boîtes et on a pu profiter de nos gamins. Donc, c'est cool. Sortir un salaire décent, oui, il nous a fallu 4 ans quand même. Mmh. Ouais, c'était long quand même. Voilà.
Faut pas aimer les sacs de luxe.
Ouais, non, faut pas aimer les sacs de luxe. Ça peut aimer réutiliser les mêmes fringues. Voilà. Enfin, faut être créatif. Quoi.
Je sais pas, en fait, il y en a tellement. Ouais, parce que c'est des rencontres, plein de fou rires.
Toi, quand tu avais essayé le maillot de bain transparent sur la plage des Catalans.
Oui. Alors, moi, j'adore me baigner si je vois de l'eau.
Peu importe, enfin, faut que j'y aille.
On voulait tester, on avait un tissu jaune
signé à Jean-Claude Duss,
quoi. C'est très clair. On s'est dit, bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Et bon, elle y est allée. Ouais, c'était transparent, quoi.
C'était un petit moment de solitude. Bon. Non, bah après on a plein de, on a vraiment beaucoup de fou rire quand même. Ouais. Enfin voilà, et plein de bons moments avec l'équipe et donc bah je sais pas, il y en a plein.
Oui, il y en a plein.
Il y a les déménagements. Bah là on vient juste de déménager, donc on est trop contente de pouvoir agrandir l'espace, faire quelque chose qui nous ressemble plus, dans lequel on va être bien parce qu'on passe quand même beaucoup de temps au travail, puis on a envie que chacun s'y sente bien, que tous les membres de l'équipe se sentent bien pour bosser. Donc ça, quand même, ça date d'il y a 2 semaines, donc on est super contente. Ouais. Là, on est en plein déménagement en ce moment.
Après, ouais, rentre au bon marché quand même.
Voilà, ah, le bon marché, c'était un très très bon moment. Ouais. Moi, c'était vraiment le Graal, la super boutique. J'avais vraiment envie d'être plus que le printemps ou les galeries Lafayette. Pour moi, c'était vraiment
Ouais, le bon marché, ouais. Okay. On avait fait un petit appel en fait quand on avait fait une commande avec une boutique parisienne. Oui. C'était vraiment tout début. Donc elle nous avait pris, on s'est dit, ah génial, c'est la super boutique. Enfin, on y est. C'était un super apéro dans un truc juste à côté dans le marais.
Oui, c'est retourné.
Donc là, le mec, on a dû prendre un verre de vin blanc chacune, ouais. Le mec, on avait 20 euros en poche. Le mec nous sort une édition à 30 euros. Bon, bah, très bien, tenez, on paye une carte bancaire, et puis finalement, une semaine après, finalement, j'ai pas envie. C'est pas grave, on est super contente.
Il y a beaucoup de moments.
Et à Marseille, vous êtes où? Où est-ce qu'on peut acheter?
Alors, on est chez Lully. Là, dans plusieurs boutiques de Lully. On est chez Baïmaïmé dans le 8e. On est chez Foratao qui est juste à côté rue du Petit Chantier.
Oui. Ouais.
Au printemps, des terrasses du port. Et aussi à la Valentine. J'oublie quelqu'un. Virginie Monroe dans le 5e. Baïmaïmé dans le 8e. Aussi dans le 7e, là, à côté des Catalans. Mon Bazar à Pont-de-Cuc. Ouais, mon bazar à Pont-de-Cuc.
Ciotta aussi.
On est très implanté vraiment par ici. Voilà, là j'en fais du bon boulot.
Et au
Nao
ce soir.
Et oui, c'est vrai. Non mais voilà, il y a un petit portant avec des petites pièces si vous voulez faire des achats. Voilà, il y a 20% de réduction ce soir si vous voulez. Profitez-en.
Est-ce que c'est difficile au départ de recruter? Parce que quand on est une société, finalement on n'est pas connu. C'est difficile de recruter et ensuite de garder vos salariés.
En fait, on l'a fait de manière assez naturelle. C'est vrai que les deux fois, par exemple, Lola, moi je bossais avec elle quand j'avais 25 ans, on faisait de la coupe pour une créatrice qui s'appelle Marie-Ève, qui est à la plaine. Donc on s'était rencontrés comme ça, mais on faisait vendeuse sur des salons de créateurs. Et puis elle bossait dans une boutique juste à côté de la rue Saint-Jacques. Donc au début, elle est venue nous aider pour faire de la vente. À la boutique, finalement, elle avait une formation de modélisme, lingerie. Donc, en fait, ça s'est fait hyper naturellement et elle est rentrée dans la société comme ça. Valérie, c'était une copine qui passait souvent, qui était tout le temps... très bonne cliente, qui passait presque tous les jours au Saint-Jacques et qui adore son téléphone. Et qui était toujours à l'affût des images sur Insta et tout ça. Je dis, mais en fait, c'était fait pour faire... Instagram quoi, voilà,
et puis
faire ton métier,
les shootings, les prépa shootings,
ouais, voilà. Et tout. Donc ça s'est fait, puis après on a recruté, mais vachement au
fil des bouche à oreille, des candidatures spontanées, voilà. Des jeunes étudiantes qui voulaient finir leurs études.
ça s'est fait.
Ça s'est fait assez facilement en fait, vraiment. Franchement, on a peu de turnover, ouais, pour le coup.
Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu envie d'arrêter?
Franchement, au bout de 2 ans, on s'est dit, bon, si ça démarre, si ça décolle pas,
on aurait inventé autre chose.
Oui, voilà. Mais bon, comme finalement, d'un coup, on a eu un client, puis un autre, puis un autre, en fait, voilà.